Suivez Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un certain nombre d'entre nous n'appliquent pas à la lettre les recommandations en matière de santé. Par exemple, ce qui concerne la lutte contre la sédentarité. Autrement dit, nous savons que pour rester en forme, il est indispensable de maintenir une activité physique régulière. Mais cette règle de bon sens, combien d'entre nous l'oublient au prétexte de leur emploi du temps ou, il faut l'avouer, d'un certain manque de motivation. S'il existe des contre-indications bien spécifiques à certains sports, aujourd'hui la prise en charge de l'essentiel des maladies chroniques implique un volet activité physique pour appuyer, consolider le protocole et notamment la prise du traitement. Alors cette fameuse hygiène de vie est essentielle, mais encore faut-il pouvoir trouver ce qui nous fait du bien, tant sur le plan physique que mental. Tout le monde n'est pas capable d'aller courir 50 minutes par jour. Tout le monde n'a pas une piscine à disposition. Certains ont pu connaître aussi des expériences négatives, des douleurs ou même du découragement en se lançant dans une activité. Il est parfois difficile de s'y retrouver entre les conseils, les arguments commerciaux et les rumeurs. Nous vous donnons donc la parole pour poser vos questions, aussi pour témoigner si vous vous sentez mieux depuis la reprise d'une activité physique régulière. Expliquez-nous ces changements, l'amélioration. Notre numéro, le 33 84 22 75 75, et bien sûr toujours sur la page Facebook de l'émission. L'activité physique, pilier de la prévention en matière de santé, comprendre quel sport est bon pour nous, pour le corps, pour le moral, quel bienfait en attendre. Questions pratiques, réponses concrètes et un invité pour vous répondre, c'est vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport et en fin d'émission, on reviendra sur les rencontres francophones qui ont eu lieu ce week-end à Genève avec comme thématique l'hésitation vaccinale et la préparation aux futures pandémies. Parmi les intervenants, le professeur Michel Kazatchkine, ancien directeur du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme actuellement, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-Marc Sen, trouver la bonne activité physique, est-ce que c'est d'ailleurs une question que l'on vous pose directement en consultation, une sorte de bilan de santé pour orienter vers telle ou telle pratique?
Oui, ça c'est vraiment du quotidien. C'est-à-dire que lorsque on vient consulter, souvent les gens souffrent. Ah, c'est la douleur qui fait consulter. On a mal quelque part. Et on se rend compte qu'à chaque fois dans les prescriptions, bien sûr, il va y avoir le traitement, on va dire local, articulaire, que l'on va devoir réaliser. On va souvent prescrire, bien sûr, de la rééducation. Mais en fait, à la fin, on a toujours la conclusion qu'il va falloir faire une activité physique adaptée. Non seulement cette activité doit être adaptée à la personne, mais en plus, il va falloir qu'elle plaise à la personne pour qu'elle puisse durablement, dans le temps, pratiquer cette activité. Donc effectivement, faire du sport adapté à une personne, c'est quelque chose de quotidien. Il n'y a pas une consultation où effectivement on n'en parle pas.
Alors, ces critères de santé, c'est essentiel, docteur Sen. On va en parler au cours de toute l'émission avec les clients des auditeurs, des auditrices. Mais il y a bien sûr les critères matériels, la question de l'encadrement de l'activité physique. Énormément de cas de figure. On peut faire du sport en solo, en groupe, avec un coach, avec un prof. Il y a énormément de choses différentes, oui. Voire même à l'hôpital.
Oui, absolument. Les situations, effectivement, d'exercices sont extrêmement variées. C'est ça qui donne. C'est cette richesse, justement, qui va permettre l'adaptation dont on parlait tout à l'heure. Le matériel, c'est un critère qui est vraiment important. Parce que, évidemment, il y a un enjeu de coût, déjà, qui intervient dans le matériel, surtout avec des modes, quelquefois, qui va faire que le matériel peut être très coûteux. Un élément de sécurité, un matériel défectueux peut être, si on fait certains sports, absolument dramatique. Et puis, souvent, ça peut être même source de traumatisme. C'est ce qu'on appelle les technopathies, c'est-à-dire les pathologies qui sont liées à une mauvaise utilisation, une mauvaise adaptation du matériel. Évidemment, les conditions de pratique tiennent compte eh bien de l'individu. Est-ce qu'on aime pratiquer en extérieur plutôt à l'intérieur? Est-ce qu'on aime pratiquer un sport très intensif? Je pense à une patiente d'hier, justement, très intensif, ou au contraire, une activité extrêmement douce également. Et puis, est-ce qu'on aime faire un sport à plusieurs pour pouvoir un petit peu rigoler, ou alors on est plutôt solitaire, on aime faire un sport seul. Tout ça, on doit en tenir compte, absolument.
Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des sortes de modes, de tendances en matière d'activité physique, parfois même des choses à éviter? Qu'est-ce que vous observez en ce moment, on va dire, la tendance sport? Parce que des fois, Tout le monde se met à faire le même sport alors que ça ne correspond pas aux besoins de chacun.
Et oui, la mode existe. Alors, dans beaucoup de sports, par exemple, dans les sports de combat, on sait qu'il y a des modes. À une époque, on faisait beaucoup de karaté. Aujourd'hui, ça sera plutôt de MMA.
C'est aussi au gré des championnats. On voit que quand la France ou le Sénégal remporte tel ou tel prix, voilà. On se met à faire tel ou tel sport.
Donc là, on va faire beaucoup de foot. Parce que, voilà. Et puis, effectivement, il y a aussi... Ah oui, il y avait quelque chose, les challenges qui ont été sur Internet. Alors, beaucoup pendant le confinement, il y avait les challenges. Alors, quelquefois, les squat challenges. Alors, genre, on faisait des centaines de squats. Le squat, vous savez, c'est ces exercices, on s'accroupit, etc. Et bah, ça faisait mal.
Le lendemain, c'était Sofas challenge.
Voilà, c'était Sofas challenge. Donc, ça veut dire que le fait de faire une activité comme ça, brutalement, effectivement, en mode qui nous est pas adapté, bah, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment se remettre au centre et se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et si on aime bien faire une activité, bah, on va la faire de manière performante, entre guillemets, elle va être agréable et on va la continuer. C'est vraiment...
En tout cas, il y a une tendance qui ne se dément pas, hein, docteur Jean-Marc Sen. C'est ce qu'on appelle plutôt les gyms douces, yoga, pilates. Et là, on peut dire que finalement, c'est bon pour tout le monde.
Ah oui, ça on peut
vraiment...
Il n'y a
pas de contre-indication.
Ah, il n'y a pas de contre-indication. Non, vraiment, en tout cas, je n'en vois pas. Encore une fois, il faut que tout cela soit, encore une fois, adapté. Mais c'est bon, pourquoi? Parce que ces gym douces, ce yoga, ce pilates, va avoir pour intérêt de renforcer la tonicité du corps. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'avant d'aller se projeter à courir des kilomètres ou faire des choses, il faut d'abord porter son propre corps. Il faut renforcer toute la musculature profonde, assouplir son corps, avoir une vraie tonicité. Et ça, ces sports dont on vient de parler, le yoga pilates, eh bien, fonctionne bien. Ah, je vous avoue que moi, tous les matins, je fais des petits assouplissements.
Voilà. Ça,
c'est formidable.
Alors, on peut dire aussi, à vous voir sourire, que ça agit sur l'esprit, sans rire, là, pas du tout, mais l'activité physique, ça fait partie aussi des protocoles dans le cadre de la prise en charge de pas mal de patients en santé mentale.
Absolument. D'ailleurs, c'est démontré. Hein. Il y a un certain nombre d'hormones, de sérotonine, d'endorphines, qui sont l'augmentation de la température corporelle. Tout cela permet en fait d'agir sur l'humeur. On sait que ça permet de réduire l'humeur. C'est d'ailleurs même une indication, en première indication, dans les dépressions légères. C'est la première indication, c'est de mettre à l'activité physique. On sait qu'au-delà de 12 semaines, eh bien, on a des efficacités durables, en tout cas des efficacités sur les baisses des symptômes de dépression. Sur l'anxiété également, ça marche. Donc, il y a vraiment, tout ça, ça a été maintenant démontré et ça fait partie des plans de traitement.
Alors, le sport qui fait du bien, on va en avoir tout de suite un premier témoignage avec notre première auditrice en direct. À Yaoundé, au Cameroun, on retrouve en ligne Karine. Karine, bonjour. Karine, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, moi, ça va.
Alors, vous avez 28 ans, Karine. Vous vous êtes mise au sport de façon régulière depuis combien de temps?
Depuis pratiquement 4 ans et demi.
4 ans et demi, et à quel rythme?
Deux fois par semaine.
Quelle activité vous pratiquez, Karine?
La danse, le gym, l'aérobie. En fait, il y a plusieurs coachs et chaque coach a sa spécialité.
Alors, c'est très intensif. Du coup, vous pratiquez ça dans une salle spécifique ou vous allez dans divers lieux?
Je vais dans divers lieux.
Divers lieux. Donc, ça vous prend pas mal de temps. Au début, vous êtes rentrée dans cette sorte de reprise sportive assez intensive. Pourquoi? Pour quel motif?
En fait, au début, je souhaitais perdre du poids parce que j'avais beaucoup accumulé et je souhaitais perdre du poids. Au début, c'était très intensif. Je faisais pratiquement 3 à 4 séances de sport de 2 heures par semaine.
Et vous avez vu les effets? Vous avez vu les effets en termes de perte de poids, justement? Pour dire trivialement, ça a marché?
Ça a marché, ça a correctement marché.
Ouais. Et ça s'est stabilisé après ou ça, vous n'avez pas perdu quand même de façon continuelle du poids? Il y a un moment donné où ça s'est stabilisé?
À un moment donné, je suis entrée dans l'effet yo-yo.
Oui. Vous avez repris du poids après la perte?
Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Parce que vous aviez varié votre alimentation, pourquoi?
Bon, c'était un peu désordonné dans l'alimentation, mais après j'ai rééquilibré.
Aujourd'hui, après ces 5 années ou presque de reprise sportive, vous vous sentez comment, Karine?
Bon, aujourd'hui, j'ai encore repris tout le poids que j'avais perdu. Je me retrouve pratiquement à 7 kilos que j'ai pris, malgré les efforts que je fais en sport. je continue toujours de faire le sport comme je faisais avant, mais je m'entraîne.
Alors, vous poursuivez le sport. On a bien entendu que derrière vous, on a entendu une voix qui parlait ou qui chantait. Donc, ça a un petit peu couvert le son de votre propre voix. En tout cas, ce qu'on entend, on remercie infiniment Karine pour ce témoignage. Hein, d'ailleurs, davantage qu'une question, Jean-Marc, une entrée en matière très positive, en fait, des besoins, une envie, hein, cette perte de poids chez Karine. Et plutôt que se mettre à un régime qui aurait pu être extrêmement contre-productif, aller regarder du côté de l'activité sportive.
Oui, alors les deux sont liés. Les deux, il faut dire que pour perdre du poids, les deux sont liés. À la fois avoir bien sûr un équilibre alimentaire et puis deuxièmement l'activité physique. On peut dire même que l'activité physique a surtout une action sur la silhouette. Ça va permettre d'affiner la silhouette plus que de perdre le poids parce qu'on prend un tout petit peu de muscle. Donc souvent, il y a une compensation. Et puis, deuxième qualité de l'activité physique, ça évite de reprendre du poids. Mais c'est vrai que l'alimentation, d'ailleurs, Karine l'a un petit peu dit, elle a dit, bah voilà, du point de vue d'alimentation, par moment, je ne faisais pas très attention.
Mais quand elle dit, ça joue sur la fatigue. Pourquoi, quand on fait du sport, on devrait dire à l'inverse, on est plus fatigué, hein, première réponse un petit peu en réaction, mais finalement, on se sent plus reposé. Pourquoi ?
Ah, probablement plusieurs mécanismes. La première chose, c'est le rythme veille-sommeil. On améliore probablement le rythme veille-sommeil et ça veut dire que, certes, on est réveillé, mais on dort mieux. Et si on dort mieux, on récupère mieux. Ça, c'est probablement un des premiers mécanismes de récupération de la fatigue. Et puis, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on va faire du sport, on va tonifier notre corps. On va avoir un petit peu plus de musculation. Ce qui fait que, en fait, le coût énergétique, autrement dit, le fait de faire un effort, va moins nous coûter. Parce que finalement, on est plus efficace dans les mouvements, dans notre posture, dans notre déplacement, et donc on se fatigue moins. Donc à la fois, on se fatigue moins quand on fait des mouvements, et deuxièmement, on améliore nos capacités de récupération, et donc c'est probablement pour ça que le sport aide à être moins fatigué.
Alors on a Karine, l'auditrice sportive, qu'on vient d'entendre au Cameroun. Déborah, message Facebook de République démocratique du Congo, elle dit « ça fait presque 7 ans que je ne fais plus de sport ». Alors, elle se demande quelles peuvent être les conséquences pour la santé quand on ne pratique pas de sport. Puis, elle a besoin de conseils. Hein. Elle demande carrément combien de fois doit-on aller à la salle de sport par semaine. Alors, elle, par sport, elle entend salle de sport, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et on a bien l'impression qu'elle a envie de s'y remettre, sans donner vraiment d'ailleurs de détails ni sur son état de santé, ni sur ses goûts, ses envies particulières. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en tout cas, à Déborah, s'il fallait la motiver?
D'abord qu'il faut différencier sport et activité physique. Autrement dit, elle peut avoir un bienfait pour sa santé à partir du moment où elle va faire de l'activité physique. Et ça, on en fait un peu plus dans la vie de tous les jours.
Marcher pour aller au travail, à l'école,
prendre les escaliers, jardiner si on aime jardiner. Enfin voilà, toutes ces activités qui vont permettre d'avoir une petite dépense énergétique. Ensuite, évidemment, cette activité physique, elle peut être organisée dans le cadre d'une pratique sportive. Et cette pratique sportive, évidemment, si on en fait 2-3 fois dans la semaine, c'est très bien. L'activité physique, il faut en faire 30 minutes 5 fois par jour. Hein, 30 minutes de marche active, par exemple, 5 fois par jour. Mais on peut imaginer...
Ça fait beaucoup, 30 minutes 5 fois par jour.
5 fois par semaine.
Vous avez raison.
Voilà. 5 fois par semaine.
Ça occupe quand même.
5 fois par semaine. Évidemment, j'ai remplacé les jours par semaine. Tout le monde peut se rassurer. Alors, donc, effectivement, 5 fois par semaine, ça va permettre d'avoir l'activité physique qui est nécessaire, qui est suffisante. Et à côté de ça, effectivement, trouver le sport, vous l'avez dit, Caroline. Trouver le sport qui va faire plaisir. Parce que c'est vraiment là le secret. C'est à partir du moment où on fait cette activité et qu'on c'est pas une punition, quoi. On y va parce qu'on va retrouver des copines, parce qu'on va pouvoir ou des amis, parce qu'on va pouvoir jouer, c'est parce que ça nous fait plaisir. Ben on va y aller et finalement, ce sport, elle fera du sport 3 fois par semaine sans même s'en rendre compte. Alors oui, en salle de sport, si c'est quelque chose qui lui plaît, mais ça peut être toute autre activité sportive. Il y en a une multitude. Il y a vraiment, il y a une créativité pour ça extrêmement large.
On se souvient pendant le confinement, vous nous donniez des conseils, remplir des petites bouteilles d'eau. Pour justement s'en servir de poids, d'haltères, quand on fait des exercices à la maison.
C'est ça. On peut utiliser, avec quasiment peu de matériel, on n'est pas obligé d'avoir justement des appareils en salle de sport.
Pas besoin d'investir.
Du tout. Un tapis de sol, une natte suffit. Effectivement, des petites bouteilles d'eau pour servir d'haltères. Une chaise, souvent. Un mur. Bon, voilà, tout le monde a ça à peu près. Et on peut faire plein d'exercices et on peut retrouver peut-être ces exercices dans l'émission.
RFI à Bobo-Dioulasso, 99.4 FM.
Et en ligne du Burkina, c'est vous, Élie, que l'on retrouve. Élie, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 36 ans. Pour vous, le sport, c'est au quotidien. Vous pratiquez quoi ?
Je fais de la course. Je cours par jour pendant 30 minutes.
Oui.
Et après, je fais quelques étirements.
Des étirements. Mais récemment, vous avez eu un petit problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel ?
Oui, récemment, il y a environ 3 mois de cela, j'ai couru pendant 30 minutes. Et comme d'habitude, je me suis mis à faire quelques étirements. Et quand je me suis mis assis, jambes, écart, front contre genou, j'ai eu un choc au dos. Ça m'a fait très mal. J'ai dû arrêter tout de suite le sport. La douleur a continué. Et au début, je me suis mis à l'automédication.
Ça veut dire des antidouleurs que vous êtes allé acheter à la pharmacie ?
Voilà, des antidouleurs, des dinapas, des efferalgans codéine.
D'accord.
Mais au bout de 10 jours, j'ai compris que ça ne me guérissait pas. Ça ne faisait qu'atténuer la douleur, mais après, c'était le statu quo. Alors, je suis allé voir un infirmier.
Oui.
Je lui ai demandé que je veux faire une radio. Il m'a prescrit la radio que je suis allé faire.
Avec quel résultat ?
Le radiologue m'a dit qu'il n'y avait pas de problème au niveau osseux. Et donc, je suis allé voir un médecin. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Il m'a prescrit du Miorel avec du Clipal que j'ai commencé à prendre. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me sentir mieux. Et j'avais des fourmillements à la cuisse droite. Donc, j'ai commencé à me sentir mieux après avoir pris le Miorel.
Et est-ce que vous aviez repris le sport à ce moment-là ou vous étiez toujours au repos complet ?
Bon, j'étais au repos complet.
D'accord.
Mais quand la situation a commencé à s'améliorer, je me suis mis à faire d'abord de la marche. Mais c'était pas... Je sentais toujours quelques douleurs quand même. Et bon, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai recommencé à courir. Mais je constate que quand j'accélère, j'ai mal dans le dos, le bas du dos, le haut des fesses.
Est-ce que le médecin vous a prescrit, par exemple, une consultation auprès d'un kinésithérapeute ou pas du tout ?
Non, il ne m'a pas...
Il ne vous a pas parlé de ça. Donc aujourd'hui, non. Le problème, c'est que cette douleur, elle est toujours là. Vous avez pris des traitements relaxants et puis antidouleurs. Mais oui. Il y a toujours cette douleur et vous êtes à la recherche en fait, d'une solution, si je comprends bien, Élie, pour que cette douleur, elle ne devienne pas permanente, chronique, c'est ça ?
Voilà. Et bon, il y a eu de l'amélioration. J'ai recommencé à courir, contrairement au début où je n'arrivais pas à courir. Et là, je me dis, est-ce que en continuant à faire le sport, est-ce qu'un jour, je ne vais pas revivre la même chose ?
Oui, donc en même temps, vous faites du sport avec la peur, en quelque sorte, que ça recraque et vous ressentiez cette même douleur aiguë. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Élie qui a parfaitement décrit la situation, oui. Docteur Sen ?
Oui, et bonjour Élie. Eh bien, effectivement, vous avez décrit, en tout cas, ce que vous décrivez est très, très, très évocateur d'une hernie discale. Évidemment, on préfère que le médecin présente ce diagnostic, mais ça ressemble vraiment à ça, une hernie discale lombaire avec une sciatique.
Est-ce que ça n'aurait pas dû être vu à la radio ?
Alors, à la radio, non, on ne voit pas. Parce
d'accord.
Que, en fait, le disque intervertébral, par définition, ne se voit pas puisqu'on voit uniquement les os.
Les os.
Il aurait fallu faire une IRM, par exemple, ou un scanner qui permettrait d'identifier cette hernie discale. Alors, ce qui est important là-dessus, effectivement, c'est qu'il y a une phase au départ où il faut être au repos et puis commencer à bouger autant que la douleur vous le permet. Alors, évidemment, autant que la douleur vous le permet et recommencer à faire certains mouvements. Ce qu'on peut vous conseiller, peut-être, Élie, c'est de faire des mouvements qui sont dans l'eau, parce que dans l'eau, vous allez pouvoir faire des mouvements relativement doux qui vont pouvoir, en fait, vous redonner un petit peu cette mobilité. Et quand vous aurez plus... Et la deuxième chose, Caroline en a un peu parlé, c'est probablement de voir un kinésithérapeute. Donc, c'est bien peut-être d'en rediscuter peut-être avec un spécialiste ou votre médecin, voir si vraiment on ne peut pas faire un examen un petit peu plus poussé ou pas, ou si cliniquement, vraiment, ça évoque l'hernie discale, voir si c'est pas possible de faire des mouvements avec un kinésithérapeute, des mouvements dans l'eau, bien renforcer son corps avant de faire des mouvements avec impact, avec choc, qui peuvent effectivement créer cette douleur. Renforcer son corps et étirer les chaînes musculaires, ça sera très important aussi, notamment les chaînes de derrière la cuisse, pour éviter de tendre le dos. Tout ça, le kiné va vous l'expliquer parfaitement.
Élie, est-ce que vous avez déjà consulté un kinésithérapeute ou c'est quelque chose complètement nouveau pour vous ?
Complètement nouveau.
D'accord. Donc, il faut trouver un kiné, si possible. Je sais que ce n'est pas toujours évident dans tous les contextes. Je ne sais pas si aller voir un médecin ou à l'hôpital de Bobo-Dioulasso, ils pourront vous orienter peut-être vers un kinésithérapeute qui pourra vous orienter vous-même vers des exercices adaptés à votre situation. Voilà, je vous remercie beaucoup, Élie. Merci beaucoup pour cet appel. On avait un autre message Facebook, celui-là, qui concernait là aussi les douleurs. C'est Amandine du Cameroun, elle est fan de sport, parce qu'elle dit qu'elle prend soin de sa santé, elle a bien raison. Mais à chaque fois qu'elle fait des exercices physiques, elle a mal au bas du ventre, au pubis, et elle voudrait savoir si cela pourrait lui causer des problèmes à la longue. Et elle précise qu'elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que ça peut être, ces douleurs au pubis que ressent Amandine ?
Alors, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas d'insuffisance, justement, du plancher pelvien. Ça, c'est une des problématiques. Est-ce qu'il n'y a pas des pertes urinaires ? En fait, cette insuffisance, finalement, de renforcement musculaire, c'est souvent un problème qui peut exister, même quand on n'a pas eu d'enfant. Même quand on n'avait pas eu d'enfant, il peut y avoir cette problématique-là. Donc, peut-être la question qu'on pourrait dire à Amandine, c'est peut-être de faire des exercices spécifiques de tonification du pubis, du plancher pelvien, et puis des abdomens, de l'abdomen également, avant de faire les exercices. Peut-être qu'il faut faire ce renforcement-là spécifique. Il y a des exercices très simples, dans un premier temps. Il s'agit simplement de faire comme si on se retenait d'aller à la selle ou d'aller uriner, dans un premier temps, faire par répétition 10 fois, 4, 5, 6 fois par jour.
Avec un temps de contraction et un temps de repos.
Un temps de contraction, un temps de repos. Et ça peut aider déjà à retonifier la région.
Voilà pour cette réponse. On a aussi une question sur le répondeur de Priorité Santé. On va l'écouter tout de suite. C'est un appel du Congo-Brazzaville de Elma. Elma a la parole.
La question que je me pose au docteur, par rapport à nous qui souffrons de la tension, quel genre de sport peut nous être favorable ? Parce que j'entends deux fois dire qu'il y a des sports qu'on ne peut pas aussi faire qui peuvent également entraîner des complications de tension. Je vis dans un quartier périphérique et là où les déplacements sont encore difficiles. Et donc je suis obligée, pour aller à mon lieu de service, de marcher 1h30 pratiquement, l'aller et le retour également. Donc ça me fait pratiquement 2h30, 2h40 de marche. Et donc, j'aimerais savoir si cette façon de marcher-là contribue également à la pratique du sport. Et j'aimerais également savoir, pour les gens qui ont des ventres un peu gros, là, beaucoup de graisse, quel genre de sport qu'on peut pratiquer en dehors des abdominaux pour casser le ventre. Merci beaucoup à vous.
Alors, ces trois questions de Elma, elle a expliqué qu'elle était hyper tendue. Elle fait plus de 2h30 de marche pour aller au travail chaque jour. Première question très simple, est-ce que marcher presque 3h, c'est faire de l'activité physique?
Oui,
Elma.
C'est bravo.
Si elle avait le choix, elle prendrait le bus, mais c'est pas mal quand même.
C'est faire de l'activité physique, et en plus, c'est de l'activité physique qui est bonne pour la tension, pour l'hypertension artérielle. En fait, c'est plutôt les sports d'endurance qui vont être intéressants.
Donc c'est vraiment indiqué dans son cas.
C'est parfaitement indiqué, c'est vraiment une bonne chose. Il faut donc continuer. Évidemment, l'alimentation, toujours faire attention, l'excès de sel, enfin voilà, avoir manger des fruits et légumes, etc. Ça va être des choses qui vont être vraiment importantes.
Et à côté de ça, peut-être qu'elle peut faire une activité plus ciblée, puisqu'elle dit pour perdre du ventre, qu'est-ce qu'elle peut faire à part les abdos pour essayer justement de renforcer cette partie de l'anatomie?
Par exemple, le gainage. Le gainage, ça c'est vraiment intéressant. Bon, quand on pense aux abdos, on pense au relevé du buste. C'est pas toujours très bien et puis c'est pas toujours très bien fait parce que souvent, même si on accroche les pieds au sol, c'est pas du tout les abdos qu'on va travailler, mais un autre muscle qui s'appelle le psoas. Donc ça, c'est déjà, des fois, en fonction de la façon dont on réalise, on travaille pas vraiment les abdos. Et puis, effectivement, le gainage va vraiment être intéressant. Gainage, vous savez, on fait la planche, on est sur les coudes, sur la pointe des pieds, on resserre les fesses, on rentre le nombril et on tient comme ça au moins 10 secondes.
On arrête de respirer, c'est dur de présenter l'émission en même temps.
Voilà, pendant 10 secondes. Et ça, on peut donc le répéter, évidemment, 3, 4, 5 fois. Et ça, c'est une bonne façon de renforcer les abdos. Il y a le stomach vacuum.
Allez-y, on parle latin dans Priorité Santé, allez-y.
Voilà, là, on peut gonfler le ventre, puis souffler le rentrer complètement. On essaye de rentrer le ventre sous les côtes. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est une façon également de faire une mobilité, finalement, des viscères, ce qui participe également à diminuer, bien sûr, tout cela. Et puis, un petit exercice, ce squat. Le squat, c'est lorsqu'on est debout et on se met en position assise, en tout cas, comme si on était en position assise, mais sans chaise. Et bien là, bien sûr, on renforce les fessiers lorsqu'on fait ça, mais on renforce aussi les abdominaux. Et donc, c'est une bonne façon de renforcer les abdominaux sans faire les fameux exercices.
Voilà, des conseils pratiques. Alors, d'autres auditeurs, d'autres conseils. On reste ensemble, docteur Jean-Marc Sen, tout de suite dans Priorité Santé. Le son de la Jamaïque avec Sister Nancy, bam bam.
Formidable.
The thing called a bomb bomb. The blue was the arms of me a pen. With a different style, different fashion. You know? Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. Who one thing, Nancy, can't understand. One me, they might talk about me ambition. Say one me, who they might talk about me ambition. Come me, say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo. What a bam.
Priorité Santé sur RFI, une émission pour répondre à toutes vos questions, pour vous conseiller, toujours en direct avec nous en studio, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, avec comme ligne directrice aujourd'hui, c'est très rare qu'on ait besoin de dispense de sport ou d'activité physique. Évidemment, un docteur Sen, en dehors des phases aiguës, critiques des maladies.
Et oui, oui, même, on pourrait dire c'est l'inverse, il faudrait presque un certificat pour ne pas faire d'activité physique compte tenu des conséquences de la sédentarité, de l'absence d'activité. Donc effectivement, c'est une fois qu'on adapte, on peut faire quasiment toute activité physique.
Alors, on va avoir en ligne tout de suite de Bamako au Mali, Aboubakar, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Vous avez 32 ans, Aboubakar, vous faisiez du sport au passé. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté?
Bon, tout se pose avec le temps, parce que moi, je faisais du sport comme le football.
Oui.
Et actuellement, tout ce que je fais comme sport physique est de marcher pendant la journée.
C'est quoi? C'est un problème d'envie ou un problème de temps?
Bon, c'est peut-être, oui, c'est un problème d'envie aussi. Hein.
Mmh. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui vous soucie depuis que vous avez arrêté le sport?
Bon, c'est que, bon, arrêter là, les soucis, bon, je ne trouve pas grand-chose parce que maintenant, tout ce que j'aimerais savoir, comment faire du poids au niveau du ventre.
Parce que depuis que vous avez arrêté, vous avez pris du poids?
Exactement, c'est juste ça, hein, parce que quand j'ai arrêté vers 2013, c'est à partir de 2013 que moi j'ai arrêté de faire le sport. Mmh. Et en ce moment, maintenant, j'ai cherché à me marier, voilà, juste après le mariage, donc maintenant, j'ai cessé de faire le sport.
D'accord, donc il n'y a pas forcément de lien entre la bonne santé et le mariage, mais simplement, vous avez envie d'être bien dans votre peau, quoi.
Voilà, là je me suis donné maintenant au boulot qui est de faire voilà, certaines choses comme les sports, voilà.
Et mais à 32 marché, ans, comme... vous avez du ventre.
Voilà, ben voilà, donc je me trouve assez jeune pour avoir ce poids-là.
J'ai une question directe à Boubacar, vous mangez beaucoup?
Bon, je peux dire que je mange aussi bien, oui, bien
vous
sûr,
mangez
je
bien. Mange. Ah, riche, on va dire, avec des sauces, vous mangez quoi?
Voilà, des riz avec des sauces d'arachide, bon, ainsi de suite. Bon, comme la sauce, quand même, ça varie selon les temps.
D'accord.
Ah ben, ici aussi, il fait très chaud. Il y a certaines qui me disent que, bon, peut-être que je peux manger, mais je bois beaucoup d'eau. Et chaque fois que, bon, je prends de l'eau glacée, là, voilà, je peux prendre jusqu'à 5 litres ou 10 litres, pourquoi pas. Je prends beaucoup d'eau, même si je mange peu.
Vous buvez même 10 si litres par peur. Jour. Vous êtes un dromadaire?
Oui, je...
Non, mais ça paraît beaucoup 10 litres par jour, hein, parce que là, je pense que c'est même pas recommandé pour la santé de boire 10 litres par jour. Hein.
Juste une question, parce que là, je prends beaucoup d'eau, et sans compter des litres, bah, en tout cas, je prends beaucoup d'eau. Il fait très chaud ici, vous savez.
Bah oui, mais même quand il fait chaud, 10 litres d'eau, en général, ce qui est recommandé, docteur Sen, je me tourne vers le spécialiste, on recommande d'aller jusqu'à, je ne sais pas, 4 litres et demi grand maximum.
Oui, ça dépend évidemment de l'eau qu'on perd, mais effectivement, 10 litres, ça peut, c'est beaucoup. Quelquefois, quand on boit beaucoup de litres, beaucoup d'eau, il peut même y avoir un incident sur le fonctionnement des reins. Hein, il peut y avoir un incident sur le fonctionnement des reins. Mais au-delà de la... Peut-être, bon, bah, si vous buvez en rasade peut-être beaucoup d'eau, il peut y avoir ce phénomène de dilatation, tu veux dire, intestinale. Ça peut exister. Mais sinon, pour essayer de retendre un petit peu votre ventre, bon, les conseils qu'on a donnés tout à l'heure sur le gainage restent vrais.
Écoutez le podcast de l'émission, réécoutez les conseils du docteur Sen et vous aurez la formule gagnante.
Voilà. Et en plus de ça, vous pouvez alors rajouter effectivement... une activité d'endurance, par exemple le fait de faire un petit peu de footing ou le fait de faire de la natation, ça va vous permettre de brûler des graisses et donc renforcer bien sûr les muscles. En plus de brûler des graisses, c'est une façon d'avoir un ventre un peu plus plat.
Vous avez le rôle du gentil, j'ai le rôle de celle qui embête. Aboubacar, vous dites aussi que vous buvez de temps en temps des sodas et du thé avec combien de sucre?
Bon, du thé, les sucres, bon, je ne consomme pas, la quantité de sucre c'est peu.
C'est peu, ouais, comment, c'est thé, peu comment, parce voilà. Qu'il y a des gens pour qui peu, c'est quand même du thé extrêmement sucré. Hein.
Ah ben voilà, là je n'aime pas ça quand même. Quand je prends tout de suite du sucre qui est dépassé sur des cafés ou qu'un soir comme ça, bon là je sens tout de suite que j'ai pris beaucoup de sucre. Automatiquement, mentalement, je vois que...
Est-ce que vous avez l'impression qu'aussi ce ventre que vous avez, il est directement lié, vous l'avez souligné, à l'arrêt du sport, mais aussi à votre alimentation?
Oui, bon, selon moi, c'est pas totalement du côté des sports, mais c'est l'alimentation, moi, je vois.
Et vous arrivez à vous restreindre, à avoir des portions moins importantes? Vous savez bien, dans cette émission, on ne parle pas du tout de régime, ce n'est pas la question. Mais de manger davantage de légumes, manger davantage de fruits frais, voilà, comme ça, être plus sur moins de viande et d'huile dans les sauces.
Bon, exactement. Ici, quand je mange chaque fois, quand même, en tout cas, la viande, elle est toujours... dans la sauce, mais les légumes, bon, c'est souvent.
Alors,
mentalement, dans les carrés, bon, ici, on s'est dit que, bon, quand on consomme quelques fois, ou les matins, quand tu te réveilles et tu prends des citrons et dans les cafés, bon, on s'est dit que, voilà, bon, les ventres, là, ça va disparaître. Moi, j'ai fait assez, mais moi, je n'ai aucun résultat, voilà.
Le retour du citron, hein. Voilà, on a vraiment des auditeurs adeptes du citron. On n'avait pas encore eu le café au citron, mais le voilà. Donc, on le redit, boire un jus de citron le matin avec de l'eau, c'est pas mauvais, ça peut être bon.
Oui, mais oui, ça apporte de la vitamine
voilà,
C.
Voilà, mais c'est pas un médicament.
Non, c'est pas un médicament et ça enlève pas les calories. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Aboubacar, qui cuisinez à la maison ou votre épouse ou vous deux. Mais peut-être que c'est justement là-dessus qu'il faut aussi régler les choses, c'est-à-dire voir avec la cuisine pour avoir moins de plats, enfin moins gras, peut-être avoir des portions ou discuter pour avoir des portions un petit peu plus modérées. Et c'est vrai que cet équilibre alimentaire, les fruits et légumes, on en a parlé, et c'est vrai que cet équilibre alimentaire va vraiment vous aider, en plus de l'activité physique, à avoir un ventre plus plat.
On vous remercie beaucoup, Aboubakar, pour votre appel. On donne la parole, on va au Cameroun, à Yaoundé, retrouver Valentine. Valentine, bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur.
Alors, vous avez 42 ans et vous l'avez dit en préparant l'émission, vous aviez été en situation d'obésité. Vous en êtes où aujourd'hui?
À une situation acceptable.
Acceptable. Ça veut dire que vous avez perdu beaucoup de poids?
J'ai perdu plus de 30 kilos.
Comment, Valentine?
Voilà. Après mon premier accouchement en 2019, au moment de l'allaitement, je me suis retrouvée à 125 kilos.
Oui.
Et j'avais beaucoup de problèmes de santé, des insomnies, des crampes musculaires. J'avais des arthroses, des lombalgies. Bref, la vie était devenue très, très lourde pour moi. Mmh. Alors, j'ai pris la décision de combattre un peu sur ce poids-là. Et j'ai rencontré un kiné qui m'a conseillé des exercices physiques adaptés à ma morphologie. Mmh. Et j'ai commencé à faire du sport, mais il faut dire que j'ai ajouté à cela un régime alimentaire très pauvre en glucides, en féculents, en sucre et en sel, parce que je suis aussi hyper tendue.
Et ça, vous l'avez eu sur les conseils aussi d'un spécialiste de la santé ou vous l'avez fait toute seule?
De mon néphrologue.
Donc tout ça a été... Suivi. Parce que quand on vous entend, Valentine, on entend vraiment le bon sens et on va dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous aviez un défi pour votre santé, tant d'ailleurs sur le plan physique que mental, parce que vous vous sentiez mal aussi, et vous avez fait ce qu'il faut, c'est-à-dire parler à des professionnels capables à la fois de vous accompagner, de vous conseiller intelligemment.
C'est ça. Ma tension était devenue plutôt suivie par le néphrologue parce que j'avais fait des œdèmes. Mmh. Et donc, le cardiologue m'a référé vers le néphrologue. Et le néphrologue m'a référé vers le nutritionniste. Et moi, j'ai décidé de rencontrer un kiné pour avoir des exercices sportifs physiques adaptés à mes problèmes de santé et à ma morphologie. Donc, c'est la mixture de tout ça qui m'a permis, au bout de 8 mois, de perdre plus de 30 kilos. Parce que j'ai commencé l'aventure avec 125 kilos et au bout de 8 mois, je pesais 93 kilos.
Donc des vrais résultats. Il n'y a pas eu d'effet yo-yo?
Non, pas jusqu'à présent. Parce que,
c'est vraiment des bonnes
nouvelles.
Tenez-vous
bien, j'ai eu une deuxième grossesse et je viens d'accoucher il y a 3 mois. Je n'ai plus que 12 kilos, 10 à 12 kilos de plus de la grossesse jusqu'à présent.
Bravo.
Parce que je continue toujours à faire le sport et j'avais justement des questions à poser au docteur.
Eh bien, allez-y, le docteur Sen est à votre écoute. Allez-y, Valentine.
Voilà. Le kiné m'avait conseillé le ballon de gymnastique, le vélo d'appartement et la marche sur le terrain plat. Parce qu'avant, je faisais la marche sur des collines. Yaoundé est une ville de collines. Mmh. Et on aime bien, pendant le week-end, aller marcher en colline pour faire du sport. Il m'a dit que ce n'était pas bon pour moi. Et c'est pour ça que j'avais des douleurs atroces aux genoux, la cambrure, le dos. Il m'a dit pour moi, il fallait marcher sur le terrain plat. Mmh. Et moi, je faisais du sport à la maison, sur mon tapis, la marche, le walk at home. Il y a des vidéos sur YouTube qui vous donnent des exercices de marche à domicile. Et j'avais mon ballon de gymnastique et j'avais mon vélo d'appartement. Bon, maintenant que j'ai accouché, il m'a dit il faut reprendre le vélo après 6 mois. Mais moi, j'ai peur de l'effet yo-yo, j'ai peur de reprendre du poids parce que pendant l'allaitement, souvent, ça m'arrive de faire ma première expérience. Et j'ai commencé le sport déjà il y a 2 mois à son insu et j'ai eu une césarienne. Donc, je voudrais demander au docteur si c'est dangereux à partir de 2 mois de faire du vélo d'appartement après une césarienne.
Bon, docteur Sen, je pense que vous n'allez pas contredire votre confrère.
Voilà. Alors Valentine, d'abord, moi je veux la féliciter parce que elle décrit vraiment beaucoup de choses qui sont très bien, des adaptations tout à fait logiques. Et donc bravo vraiment là-dessus. Vous avez eu des bons conseils, c'est-à-dire qu'au départ, le ballon c'est vraiment intéressant parce que tout ça, ça va permettre de renforcer un petit peu des exercices, le ventre, le périnée, le dos. C'est vraiment les premiers exercices qui sont importants à réaliser avant de faire des activités plus toniques, il faut vraiment renforcer toute cette région. Et donc, l'utilisation du ballon, des exercices à faire chez vous, ça, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, souvent, on commence pour faire des activités aérobies, des activités sans impact. Et c'est pour ça que le fait de marcher, d'éviter, évidemment, là aussi, c'était une bonne idée d'éviter de marcher dans la colline, de faire du vélo, ça, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant. Alors, généralement, lorsque on a eu justement une césarienne, on considère qu'il faut attendre à peu près 2-3 mois pour pouvoir commencer à faire de l'activité physique, à condition qu'au préalable, justement, on ait fait bien ces renforcements progressifs. Donc, 6 mois, il faut voir pourquoi votre collègue, bien sûr, notre collègue a donné ça. Il a peut-être une bonne raison, mais en tout cas, peut-être rediscuter, tout simplement, en se disant, bah voilà, peut-être que les exercices, voilà, sont tout à fait adaptés. On sait qu'il existe une variété aussi, une variabilité en fonction des personnes pour pouvoir récupérer, et que certaines personnes qui sont déjà entraînées avant, bah, récupèrent plus vite qu'une personne qui n'est pas du tout entraînée. Donc cette variabilité joue visiblement en votre faveur, hein, si on en croit votre ressenti. Donc peut-être s'en ouvrir très gentiment aux collègues, qui peut réévaluer et réadapter éventuellement les durées. Hein. Ça, c'est tout à fait possible.
Et c'est important aussi cette relation de confiance. Hein, Valentine, que vous disiez vraiment ce que vous avez sur le cœur à votre kiné, je suis sûre qu'il va tout à fait comprendre, parce que vous êtes là aussi pour répondre à certaines de vos envies. Je vais me faire la porte... On vous remercie en tout cas. Merci, bien sûr, hein, Valentine, pour votre appel. Je vais me faire la porte-parole de Fraude, qui est un auditeur de Bangui, de République centrafricaine. Il nous a expliqué, à 27 ans, il faisait du foot, mais il a eu un accident au bras droit, il a arrêté. Et il court le week-end. Le problème, c'est qu'il a de grosses courbatures, docteur Jean-Marc Sen. Il a même du mal à s'accroupir. Il prend un temps de relaxation après le sport, mais il demande, comment est-ce que je peux faire pour éviter les courbatures après une séance sportive?
Alors, les courbatures, pour répondre à Freud, les courbatures, c'est des micro-dommages musculaires. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il fait de l'activité physique, il existe des petites lésions au niveau musculaire, et effectivement, dans les 24 à 48 heures qui suivent, eh bien, il va y avoir une réaction un petit peu inflammatoire et des douleurs vont apparaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'adapter son activité. Peut-être qu'il a une activité trop intensive, avec pas suffisamment d'échauffement, qui n'est pas suffisamment progressive et qui crée justement ces éléments de courbature. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est d'essayer de diminuer la sensibilité des récepteurs à la douleur de ses muscles. Pour ça, il faut faire de véritables étirements passifs après la séance, parce que comme ça, on aura moins de douleurs. Et puis enfin, la troisième chose, c'est la qualité de la récupération. Bien dormir, c'est une façon de diminuer, bien sûr, la récupération, d'améliorer la récupération musculaire, et de bien s'hydrater également, c'est une bonne façon. Donc, adapter son activité physique, bien s'étirer, bien s'hydrater, bien dormir.
Et voilà ces conseils pour Freud. On part pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, où l'on retrouve en ligne Chamsoudine. Chamsoudine, bonjour.
Voilà, bonjour.
Alors, Chamsoudine, vous avez 30 ans, vous êtes un oui. coureur. Aujourd'hui, vous courez à quel rythme dans la semaine?
Parfois, je cours 2 fois par semaine.
Oui.
Et parfois aussi, c'est 3 fois. Souvent, je peux faire 1 mois sans aller courir à cause du manque de temps.
Et ça a changé par rapport à avant, Chamsoudine? Avant, vous aviez une pratique de la course, une pratique sportive beaucoup plus intensive?
Oui, oui. Ça a changé par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, maintenant, c'est-à-dire... Parce qu'au début, mon objectif, c'était de devenir un athlète professionnel. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai un peu diminué mon rythme et le nombre de fois que je vais au sport.
Oui, et quand vous courez, Chamsoudine, vous ressentez des choses désagréables, ça se passe comment?
Bon, très 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 souvent, je sens, pendant la course, je sens quelques petites douleurs au niveau de mes genoux.
Des douleurs au niveau des genoux. Est-ce que vous avez des éléments d'explication, docteur? Excusez-moi, Chamsoudine, vous courez sur quelle surface et avec quel type de chaussures?
Du coup, avec des baskets.
Oui.
Et je cours sur du goudron.
Sur du goudron. Je ne sais pas s'il y a suffisamment d'éléments pour répondre. C'est peut-être pas évident, hein, docteur Sen, on n'est pas devin.
Oui, voilà, c'est ça. Les douleurs aux genoux, il y a beaucoup, beaucoup de diagnostics dans ces douleurs mécaniques, qui peuvent être portées. Donc là, évidemment, c'est difficile de porter un diagnostic. Il faut examiner pour pouvoir faire ça. Mais enfin, souvent, ce sont des douleurs tendineuses ou des douleurs articulaires qui peuvent expliquer, évidemment, ces problèmes mécaniques. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est bien sûr de consulter, bien sûr, son médecin, de bien s'échauffer, bien sûr, d'essayer de courir sur des terrains plutôt souples, d'avoir un bon chaussage, également des bonnes chaussures, pour pouvoir faire ça et voir si la douleur ne s'estompe pas. Et sinon, évidemment, il faut consulter pour que le diagnostic soit posé.
Alors, on remercie Chamsoudine pour son appel. On a quelques minutes, très brièvement. On retrouve en ligne de Guinée, de Conakry, Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors, je vais résumer. Ibrahim, vous avez 22 ans et vous souffrez d'un trouble du rythme cardiaque. Vous prenez, enfin, on vous a prescrit des médicaments. Lesquels ?
Ils m'ont prescrit le bêta-bloquant et l'amiodrone.
Ce médicament, on vous a dit de le prendre très régulièrement. Qu'est-ce qui a marqué sur l'ordonnance ?
Oui, ils m'ont dit de prendre très régulièrement.
Et vous le prenez de quelle manière, vous, Ibrahim ?
Je le prends 3 fois par semaine.
Est-ce que c'est ce qui est prescrit ou est-ce qu'on vous a dit de le dire prendre tous les jours ?
Oui, c'est ce que le médecin cardiologue avait prescrit sur l'ordonnance.
D'accord, je m'excuse si je vous parle un peu vite, hein, c'est parce que le temps est là, c'est pas du tout parce que je suis méchante avec vous. Alors, vous avez des douleurs au niveau cardiaque et on vous a dit donc pas de sport. Comment vous l'avez pris quand on vous a interdit de faire du sport ?
Ah bon, c'était ahurissant parce que au début j'étais passionné de football et je pratiquais pas mal le sport. Donc lorsque mes parents sont revenus, lorsque je suis revenu à la maison avec mes parents, j'étais bouleversé parce que je ne voulais pas du tout abandonner le football parce que j'étais vraiment passionné de football. Donc ils m'ont dit encore d'arrêter toute activité sportive. Donc ce qui veut dire que je ne peux pas non plus faire des sauts, des pompes à la maison.
Et on comprend que ça peut être à 22 ans, ça peut être extrêmement frustrant, effectivement. Hein. Docteur Jean-Marc Sen, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ibrahim ? Encore une fois, on n'a qu'une minute, hélas. Mais c'est difficile, sa situation.
Bon, en tout cas, bien suivre son traitement. Il parle de troubles du rythme. Les bêta-bloquants, quand on les arrête brutalement, ça peut favoriser la
récidive. Donc ça veut dire déjà la première chose, on n'arrête pas.
On n'arrête pas, on suit bien sûr son traitement. La deuxième chose, peut-être reparler à son médecin, parce que ne pas faire d'activité physique, normalement, il n'y a pas d'indication de ne pas faire d'activité physique. Il faut simplement qu'il soit adapté. Alors peut-être qu'ils ne souhaitent pas que vous fassiez du football de manière intensive, c'est peut-être ça qu'ils ont dit, mais vous pouvez peut-être certainement, enfin ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres activités que vous ne puissiez faire. Il faut en discuter bien sûr avec le cardiologue, il faut simplement que vous ayez une activité adaptée sur le plan cardiovasculaire, sur votre état de santé cardiovasculaire, mais normalement on doit pouvoir trouver des activités qui sont adaptées, alors qui ne sont peut-être pas le football, hein, mais enfin si vous étiez avant, peut-être que vous serez gardien maintenant, mais en tout cas vous devriez pouvoir faire de l'activité.
En tout cas, Ibrahim, parlez-en à votre médecin. Restez pas avec ça sur le cœur, comme on dit. Très bonne journée à vous, à Conakry. Et un merci infiniment à Dr Jean-Marc Sen d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine.
C'était un plaisir.
Dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Setoussa Maké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurent Hérault. Demain, nous allons parler des complications de l'accouchement, situation d'urgence, prise en charge, hémorragie de la délivrance, souffrance fœtale. L'accompagnement aussi, c'est essentiel. Et on répondra à vos questions en direct dès 9h10 temps universel. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sonoubank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.